France Inter, le 18-20.
Comme à chaque congrès mondial sur le cancer, c'est pas forcément dans les pages très spécialisées des journaux qu'on trouve des comptes rendus et des grandes avancées. Il y a longtemps que ces sujets santé ont accroché les unes, parce que nous sommes évidemment tous concernés un jour ou l'autre, ou de près ou de loin. Cette fois encore donc, on en ressort avec le sentiment que la science avance toujours dans ces domaines-là. C'est compliqué, c'est lent, mais les cancers reculent et les traitements progresse. On a beaucoup entendu parler la semaine dernière, par exemple, d'immunothérapie et comment elle pouvait aider au traitement. Mais c'est quoi exactement? De quel cancer parle-t-on et aussi à quel stade? Il y a aussi, qui en découle parfois, ce qui frappe en le lisant, et si la chimio n'était plus le seul traitement possible, si on pouvait s'en passer parfois? Là encore, on parle de quel cancer, on parle à quel stade et surtout, on parle de quel horizon, 5 ans, 10 ans ou plus encore? Qu'est-ce qu'on fait du dépistage qui semble souvent acquis pour le cancer du sein par exemple, nettement moins pour d'autres, comme le cancer du poumon, deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes et première chez les hommes. Un dépistage précaire, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est fiable? Il y a des progrès très nets, il y a aussi des espoirs dont on verra les effets réels plus tard peut-être. Ça se compte en années ou en beaucoup d'années, vous nous le direz. Les questions, elles en tout cas, sont bien réelles et concrètes et c'est bien maintenant. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et Pierre, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir Fabienne. Je vous remercie de prendre ma question. J'ai lu des choses sur un test sanguin qui éventuellement permettrait un diagnostic plus précoce pour le cancer. Et je voulais savoir vers quel horizon on pourrait espérer avoir un tel test.
Et aussi de quoi on parle exactement. Pierre, merci beaucoup pour votre question et pour cette entrée en matière. Pour vous répondre et pour discuter avec nous ce soir jusqu'à 20h, le professeur Jean-François Maurer est là. Bonsoir. Vous êtes chef du service de cancérologie à l'hôpital Paul Brousse, c'est à Villejuif. Et bonsoir à vous, Aurélien Marabel. Vous êtes directeur clinique du programme d'immunothérapie de l'Institut Gustave Roussy. J'espère qu'il y aura plein de questions pour vous autour de l'immunothérapie. Et Véronique Julia également, spécialiste santé de France Inter. Ben, commençons avec vous, Aurélien Marabel. Jean-François Maurer, évidemment, vous parlerez derrière les fameux tests sanguins dont parle Pierre. On parle de quoi exactement?
Alors, il y a un type de test sanguin qui fait l'actualité en ce moment et dont on a beaucoup parlé à notre congrès à Chicago. C'est en fait la capacité aujourd'hui de détecter dans le sang des patients l'ADN des cellules tumorales, en fait des cellules cancéreuses. On sait que les cellules cancéreuses, quand elles prolifèrent, elles peuvent aussi mourir. Et quand elles meurent, elles peuvent relarguer dans le système circulatoire sanguin des fragments de leur ADN. Et on peut aujourd'hui, grâce à des techniques assez sensibles, détecter les séquences d'ADN de cette cellule tumorale. Et donc ça nous permet éventuellement de diagnostiquer des mutations qui sont présentes dans les cellules tumorales. Donc ça a une valeur éventuellement pour identifier des cibles thérapeutiques. Mais ça nous permet aussi de quantifier la maladie au niveau de l'organisme et donc d'avoir un suivi au cours du temps et au cours du traitement de la charge tumorale du patient.
Mais ça veut dire qu'on parle d'un test une fois cancer déclaré. On est d'accord avec ça?
Ça peut être aussi un test de screening et de dépistage potentiellement dans un futur proche. Aujourd'hui, on en est vraiment dans des étapes de développement et de recherche, c'est pas encore du standard.
Jean-François Maurer.
Oui, c'est très précoce, mais c'est vrai qu'on est capable de voir, enfin de mettre en évidence l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire confirmer peut-être la présence d'un cancer quelque part, ou bien de mettre en évidence des cellules tumorales qui circulent dans le sang. Et donc, ça pourrait venir en complément d'un autre test de dépistage, par exemple, un examen radiologique dans le cadre du cancer du poumon. Donc, c'est vrai que c'est nouveau. Ce qui était vrai hier l'est peut-être moins aujourd'hui. On disait tel cancer peut pas être dépisté. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir construire des dépistages plus robustes.
Donc ça veut dire, pardon Véronique, juste une seconde, ça veut dire que je comprenne bien qu'on confirme une présence. C'est ça que j'ai entendu dans ce que vous dites en fait. On confirme une présence, c'est-à-dire on n'est pas dans tout le monde passe au dépistage sanguin,
non,
comme ça tout le monde saura si on aura un cancer.
Ce serait plutôt aujourd'hui un test confirmatoire.
Mmh. Ou pour confirmer le retour, par exemple, on l'a vu sur le cancer du poumon, ça permet le suivi sans biopsie à chaque fois et voir si on a rechuté sans faire des examens trop intrusifs, comme on dit, qui nécessiteraient une chirurgie ou un acte plus difficile. Il faut quand même dire aux auditeurs, je crois que c'est important, que c'est pas la biopsie, c'est pas la prise de sang demain pour tout le monde, pour n'importe quel cancer. C'est quand même, pour l'instant, c'est très avéré sur le poumon, et est-ce qu'il y a d'autres exemples de cancers où on pourrait faire ça assez vite prochainement?
Aurélien Marabelle.
Oui, il y a différents types de cancers où cette analyse est pertinente. La seule limitation aujourd'hui, c'est que ça reste du domaine des protocoles de recherche, qu'on n'a pas de remboursement aujourd'hui, par exemple, pour une prise en charge de ces examens, et que donc ça reste encore de la médecine de demain, mais pas de la médecine d'aujourd'hui en termes de routine.
Mais on parle de quel cancer quand même, même si effectivement on n'y est pas encore ?
Oh, on a de multiples cancers qui ont potentiellement des anomalies au niveau de leur ADN qui peuvent être identifiés ou mieux caractérisés sur la présence de ces mutations.
On dit parfois qu'on ne retrouve pas forcément les mutations dans le sang dans tous les cas.
C'est... En fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le sang est un meilleur miroir de l'hétérogénéité de la maladie. Vous savez que dans le cancer, on peut avoir des métastases à différents endroits qui peuvent évoluer pour leur propre compte et acquérir des mutations. Donc, vous pouvez avoir dans une métastase des mutations qui ne sont pas présentes dans une autre métastase. Mais du coup, dans le sang, vous pouvez détecter cette hétérogénéité et dire, par exemple, qu'un patient va être porteur d'une mutation alors que la biopsie sur une des lésions ne l'avait pas trouvée, par exemple.
Est-ce qu'on est tous dans le monde à égalité là-dessus, notamment sur le dépistage précoce, par exemple, sur les cancers du poumon? Est-ce que tout le monde est à peu près à ce même stade-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui font des dépistages beaucoup mieux qu'on ne le fait nous? Alors, Jean-François Maurer.
Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de programme national de dépistage du cancer du poumon. Il existe aux États-Unis quelques centaines de centres qui réalisent des tests de dépistage radiologique dans des populations de grands fumeurs ou d'ex-grands fumeurs. Selon une étude qui avait été positive, qui montrait qu'on pouvait faire baisser la mortalité par cancer du poumon chez le fumeur ou l'ex-fumeur. Mmh. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui, mais c'est vrai que ça touche peu de personnes. Dans une étude qui a été présentée cette année, on voyait que c'était seulement 2% de la population qui pourrait, entre guillemets, bénéficier de ce dépistage, qui en bénéficiait aux États-Unis.
Donc allons-y, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus?
Parce que ça a été une question qui a été discuté il y a quelques années avec des experts de pneumologie, l'Institut national du cancer et le ministère. Je pense qu'un programme avait été tracé. Puis finalement, il y a des arbitrages quand même qui se font au niveau, je dirais, des gouvernements. Et ce qui a été choisi, c'était plutôt l'augmentation du prix du tabac.
Et alors, pardon, voilà. Excusez-moi, je vais insister parce que je voudrais comprendre, en fait, Véronique.
Bah parce que, en fait, aujourd'hui, on parle de biopsie liquide, mais à l'époque, c'était un scanner pour dépister, et le scanner faisait apparaître parfois
il y avait des faux négatifs, c'est
qui
ça
étaient, oui. qui n'étaient
des faux
pas
positifs,
des cancers.
Pardon, des faux positifs, positifs pardon.
Qui étaient source de biopsies qui s'avéraient...
Donc c'était pas fiable en gros.
Ben, c'était pas suffisamment fiable, où le prix à payer était assez élevé. Quand je dis le prix à payer, c'était le prix à payer humain, c'est-à-dire voir des interventions chirurgicales sur le thorax qui étaient nécessaires pour qu'on arrive à dépister vraiment des cancers. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec peut-être un test biologique en plus, ça permettrait d'être plus efficient.
Parce que, est-ce que ça veut dire qu'à terme, je veux dire, chez les femmes par exemple, le dépistage du cancer du sein est devenu quasiment rentré dans les mœurs? En fait, il y a probablement des progrès à faire, vous nous le direz, mais c'est des choses qu'on sait en fait. C'est pareil pour le dépistage du cancer du col de l'utérus par exemple, c'est pareil chez les hommes, j'imagine, chez les cancers de la prostate. Il y a un certain nombre de cancers où on sait comment ça marche, le dépistage, et surtout on est tous habitués à le faire. Ça paraît tellement évident quand on parle du poumon, si on considère que c'est le premier cancer mortel chez les hommes, le deuxième chez la femme.
Alors c'est vrai que le fait d'avoir des thérapies plus efficaces comme l'immunothérapie, ça dynamite un peu nos habitudes. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque y compris dans des stades très précoces, maintenant on peut être très actif. Il y a une étude qui a été présentée récemment qui disait que chez les gens qui allaient être opérés, si on faisait deux injections d'immunothérapie, eh bien pratiquement la moitié d'entre eux avaient des réponses majeures, avec parfois des disparitions de la tumeur. Donc c'est vrai que les concepts, le progrès actuel que l'on ressent dynamite nos règles précédentes, et donc il faut quasiment réinventer la cancérologie aujourd'hui.
Véronique, pardon.
On ne dépistait pas forcément parce qu'on ne savait pas, il y a quelques années encore, très bien soigner le cancer du poumon.
Exact.
Aujourd'hui, on fait beaucoup de progrès. Le dépistage peut peut-être se justifier d'autant plus.
On pensait que ce n'était pas nécessaire.
Et juste avant qu'on revienne au standard, Aurélien Marabelle, ça c'est vraiment pour vous, parce qu'on va beaucoup parler d'immunothérapie, on y a fait allusion à l'instant. Très concrètement, cette question d'Hélène de Paris, c'est quoi l'immunothérapie? À qui ça s'adresse?
Alors l'immunothérapie, c'est un terme assez vaste qui veut juste dire qu'on utilise le système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs du patient, pour essayer de soigner la maladie. Donc c'est, en termes de méthode de traitement, si vous voulez, c'est assez radical comme innovation, puisque jusqu'à présent, on disait que le problème du cancer, c'était la cellule cancéreuse et qu'il fallait détruire cette cellule cancéreuse avec des traitements.
C'est pour ça qu'on y allait à l'arme lourde, pardon,
voilà,
pour dire les choses
avec
clairement.
Avec la chimiothérapie au début, puis après avec des thérapies ciblées. Là, le principe est différent, puisque en fait, on fait des médicaments qui vont cibler les globules blancs pour que eux fassent le boulot contre la maladie. Et en fait, on vient s'adresser à des phénomènes de tolérance immunologique, puis on revient à bloquer des voies qui sont impliquées dans la tolérance immunitaire, et on aide le système immunitaire à reconnaître la cellule cancéreuse comme étant anormale pour réagir contre la maladie.
D'accord, pour dire les choses de manière extrêmement simple, est-ce qu'on peut imaginer, pardon, je vais super simplifier, mais on explique aux globules blancs où il faut aller taper, en fait, très exactement pour soigner la tumeur, en gros.
Alors, on le dit pas de façon très exacte, ce qui explique qu'on peut avoir des effets indésirables aussi.
J'entends bien, je vois le professeur Moret qui regarde comme ça en disant...
Mais le principe est là.
Si,
c'est un peu le principe quand même.
Vous avez une technique qui s'appelle les CAR T-cells, en particulier dans les maladies cancéreuses du sang, on va dire, qui est actuellement en train d'être développée. Il y avait 25 présentations sur ce thème, ce fameux ASCO, la Société américaine de cancérologie. Et là, effectivement, on les drive pour aller attaquer...
On les dresse.
On les dresse en quelque sorte pour aller attaquer les cellules cancéreuses.
Mais sinon, l'immunothérapie de base, c'est qu'en gros, la cellule cancéreuse, elle endort un peu les défenses autour d'elle. Et là, il s'agit de les réveiller pour qu'elles se disent « Oula, il y a une cellule cancéreuse, j'y vais ». C'est un peu ça.
En fait, il y a différents types d'immunothérapie. Moi, j'étais en train d'évoquer en effet cette première génération d'immunothérapie avec des anticorps, donc des anticorps médicaments, où on vient moduler en fait le globule blanc du patient in vivo, c'est des injections intraveineuses de ces anticorps. Le professeur Maurer évoquait une nouvelle génération où là, on prend les globules blancs du patient, on les amène au laboratoire, on les modifie génétiquement pour les forcer à reconnaître la cellule tumorale et on les réinjecte. Ça, c'est deux types d'immunothérapie qui sont très en vogue en ce moment. Mais on en a d'autres aussi. On a des virus oncolytiques qu'on injecte en intratumoral. On a des cytokines qu'on administre aux patients. Les vaccins reviennent aussi. Donc, il y a une explosion, en fait, des stratégies d'immunothérapie qui sont en cours de développement. Mais la réalité aujourd'hui, dans la prise en charge des patients, et notamment dans le cancer du poumon, ce sont les anticorps immunomodulateurs. Donc, ces médicaments qui viennent casser la tolérance immunitaire.
Mais ce que ça dit aussi, c'est ça qui nous intéresse aussi quand on vous écoute, c'est pas d'effets secondaires, pas de perte de cheveux, pas tout
Alors,
ça.
Alors, on sort de la toxicité historique des chimiothérapies, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de chute de cheveux, de nausées, vomissements, d'aplasie fébrile, de transfusion de plaquettes et globules rouges. En revanche, on a des nouvelles toxicités, comme on l'a dit, on vient casser la tolérance immunitaire, et donc certains patients peuvent déclarer des symptômes auto-immuns qui ressemblent vraiment à des maladies auto-immunes qu'on peut voir chez certains patients. Donc ça reste en monothérapie avec les premières générations d'anticorps immunomodulateurs, ça reste des effets indésirables qui restent rares, puisqu'on a en gros que 10% des patients qui vont faire des toxicités auto-immunes, donc ça veut dire 90% des patients ne font pas de toxicité ou des toxicités légères, mais ce sont des nouvelles toxicités auxquelles les oncologues n'ont pas été habitués à être confrontés, donc il faut être vigilant et savoir prendre en charge ces effets indésirables.
Mais en gros, on perd plus ses cheveux et on peut prendre un comprimé à la maison, ça change tout aussi.
Alors, c'est pas un comprimé, c'est des injections intraveineuses.
Ah, des injections, alors
mais,
pardon.
Mais les comprimés, ça existe aussi. Les comprimés, ça existe aussi, si je ne m'abuse, non ? Ça existe
alors, pas
c'est
pour les,
ce qu'on appelle les thérapies ciblées.
D'accord. Alors, ah, c'est autre chose.
D'accord. Mais oui, si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut combiner une thérapie ciblée, par exemple, qui va bloquer la fabrication des vaisseaux sanguins par la tumeur, et une immunothérapie. Il y a un grand espoir là qui s'ouvre dans les cancers primitifs du foie. Jusqu'alors, il y avait peu de traitements médicamenteux, il y avait juste des options de traitements chirurgicaux. Aujourd'hui, on a un essai qui nous montre qu'il y a 65% de réponse avec la combinaison de ces deux molécules. C'est vraiment un grand espoir pour les gens atteints de cancer du foie.
C'est-à-dire on booste les défenses et on asphyxie la tumeur en coupant les vaisseaux sanguins.
Et ce qui nous amène à la question de Didier, de nos gens sur Marne, sur franceinter.fr, est-ce qu'on est en train quand même de quitter l'ère du tout-chimio ? En fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas que cette méthode-là, ou en tout cas, à terme, il y aura de moins en moins que cette méthode-là.
Ça reste aujourd'hui la pierre angulaire de beaucoup de traitements des cancers, puisqu'on va dire ça comme ça. Il y a eu des avancées. On sait que c'est aussi un espoir qui s'ouvre, par exemple, pour les patients qui sont atteints de cancer du pancréas et qui sont opérés. On sait que faire une chimiothérapie derrière cette intervention chirurgicale, ça rajoute des chances de ne pas rechuter. Donc, la chimiothérapie a encore sa place. On essaye de la faire sous forme de traitements oraux, c'est-à-dire que les gens puissent être soignés par des comprimés à la maison, y compris de chimiothérapie. Mais effectivement, grâce au développement de tests en particulier génétiques, de tests de génomique, on est capable aujourd'hui de dépister quels sont les patients parfois, qui vont être le plus sensibles à la chimiothérapie ou qui en ont le plus besoin, en particulier dans le cancer du sein. C'était cette année que ça a été vraiment démontré dans une étude sur plusieurs milliers de patientes.
Allez, je voudrais qu'on retourne au standard, au 01 45 24 7000. Bonsoir Marie-Claude.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Ma fille est décédée l'an dernier d'un cancer de l'ovaire et qui a été dépisté très tard. J'en ai parlé avec plusieurs médecins. Elle a été soignée à l'Institut Curie, elle a été opérée. Et puis j'en ai parlé avec plusieurs médecins qui m'ont dit que en faisant des échographies pelviennes régulièrement, comme on fait les mammographies, on pourrait dépister le cancer de l'ovaire beaucoup plus tôt. Et il y aurait peut-être un peu plus de survie, puisque apparemment il n'y a que 5% des malades qui survivent au cancer de l'ovaire.
Merci pour cette question, Marie-Claude. Professeur Jean-François Maurer, est-ce qu'il y a une méthode, une échographie pelvienne qui pourrait être...
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de méthode de dépistage radiologique du cancer de l'ovaire. C'est un organe qui est profond, qui est mal visible avec des techniques non agressives. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, on puisse réétudier ce dépistage en combinant une imagerie et pourquoi pas un test sanguin. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je suis très désolé pour cette auditrice, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique, ça touche des femmes jeunes avec de temps en temps des maladies qui sont très réfractaires à nos traitements et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin encore de faire beaucoup de progrès dans cette situation, même si on peut guérir un certain nombre de ces jeunes femmes.
Bonsoir Denis, est-ce que vous êtes là?
Alors, allô?
Oui, on vous écoute Denis, soyez le bienvenu.
Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur, allez-y.
Et tous vos invités. Ma question était en rapport du positionnement du cannabis dans les traitements des cancers, enfin des douleurs en tout cas des cancers. D'accord. En France aujourd'hui. Mm-hmm. Pardon, c'était pas une question, c'était un témoignage.
Allez-y.
Allez-y, mais on n'était pas sur l'intervention du cannabis dans les traitements des cancers.
Non, mais on vous écoute, on n'y était pas pour l'instant, mais grâce à vous, on va l'être. On vous écoute, Denis, allez-y.
Ah, d'accord. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, il faut que je la fasse succinct, c'est ce que m'a expliqué votre...
Oui, ça démarre mal, mais allez-y, je vous en prie.
faire succinct...
Allez-y, Denis.
En disant que j'ai accompagné ma mère pendant 3 mois sur un cancer des os extrêmement douloureux et que grâce à un boom que j'ai fait fabriquer à base d'aromathérapie et de quelques grammes de cannabis, j'ai pu la masser sur l'endroit où elle ne pouvait même plus poser sa main.
Mmh. Et
ça a duré 2 mois. Tout le monde extrêmement content. C'était une maison de retraite. Ma mère était tétraplégique. Elle était imbougeable. Et tout d'un coup, elle était bougeable, soignable, et ne ressentait plus la douleur. Je la massais 2 fois par jour avec ce baume. Mmh.
Que vous avez fabriqué tout seul, donc, Denis, j'imagine?
Non, pas du tout.
Ah bon?
J'ai fabriqué à l'aide d'un ami, ancien docteur en sciences de l'INRA, biologiste, et qui a monté une gamme de produits biologiques d'hygiène corporelle.
D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage, Denis, et vous avez raison, l'usage du cannabis dans le traitement de la douleur dans les cancers, c'est quelque chose qui revient souvent, dont on a eu l'occasion de parler quand on a parlé cannabis thérapeutique, mais c'est important d'y revenir. Jean-François Maurer, vous dites quoi?
Alors, je dis que nous avons testé enfin, les substances du cannabis, en particulier le tétrahydrocannabinol, il y a de nombreuses années, quand on faisait de la recherche clinique à ce sujet, chez les patients atteints de cancer, on voulait tester l'effet anti-émétique, en fait, de vis-à-vis de la chimiothérapie.
Antiémétique, pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire anti-nausée, vomissement.
D'accord,
pardon.
Okay. Mmh.
Mais c'est vrai que ça n'avait pas un effet majeur. Alors, on comprend très bien que si le fait de fumer du cannabis peut entraîner un sentiment de bien-être ou un sentiment de déconnexion, ça peut être utile pour certains patients. En revanche, je voudrais quand même alerter sur le fait que c'est aujourd'hui, on a un grand nombre de thérapies alternatives qui ne sont pas des thérapies complémentaires. Donc c'est, il faut se méfier d'un grand nombre de traitements qui sont réputés comme étant très efficaces sur les symptômes, alors qu'ils n'ont pas vraiment d'effet reproductible. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts sur ce qu'on appelle les soins de support, qui sont des choses qui sont identifiées et validées. Et donc je pense qu'il vaut mieux se tourner vers les traitements de support que l'on connaît aujourd'hui, qui sont accessibles dans les différents centres de traitement, plutôt que dans des thérapeutiques alternatives qui peuvent avoir de temps en temps des effets, je dirais, nuisibles. Ce n'était pas le cas pour cette patiente, mais pour d'autres, ça peut être le cas.
Aurélien Marabel, votre point de vue là-dessus, on la comprend, la frustration de Denis, qui dit « moi, j'ai finalement trouvé un truc simple, et ça fait du bien à ma mère, ça a fait du bien à ma mère ».
Le cannabis fait partie des plantes où on a en effet des principes actifs qui peuvent avoir des effets de neurotropes, c'est-à-dire d'avoir touché à la fois le cerveau et puis les parties sensitives du système nerveux. On a aujourd'hui toute une batterie de médicaments issus de la pharmacopée naturelle, aussi à l'origine, qui sont des médicaments qui sont approuvés, autorisés et qu'on peut utiliser chez les patients pour contrôler la douleur. Voilà, aujourd'hui, nous, notre utilisation, elle se fait autour de ces produits qui sont des produits souvent puissants contre la douleur et qui existent soit sous la forme de pommade, soit sous la forme d'injection ou de comprimé par la bouche. Et aujourd'hui, les prises en charge de la douleur dans les équipes de soins palliatifs sont des équipes qui sont formées et qui n'ont pas peur d'aller à des doses qui permettent de contrôler les douleurs.
Enfin, c'est vrai que normalement, on arrive à... On a déjà eu l'occasion d'en parler au téléphone, mais c'est vrai qu'en matière de cannabis thérapeutique, on est quand même assez en retard, nous, Jean-François Maurer, par rapport à certains de nos voisins, notamment par rapport à beaucoup de nos voisins, d'ailleurs. Non.
Dans le cadre du cancer, il n'y a pas beaucoup de données véritablement publiées. Je rappelle aussi que quand même, les joints de cannabis contiennent 7 fois plus de substances cancérigènes qu'une cigarette.
Mais on ne parle pas toujours, ça ne s'assume pas toujours. Des fois, ce sont des baumes, des fois, ce sont des tisanes, des fois, ce sont des space cakes.
Voilà, tout à fait. Je n'ai rien
contre. Vous dites en fait que vous avez ce qu'il faut contre la douleur, en fait.
Oui, c'est ça.
Vous pensez être armé.
En disant on est en retard, c'est un préjugé. Est-ce qu'on a besoin du cannabis pour prendre en charge?
C'est juste de fait de voir qui en Europe autorise le cannabis thérapeutique. Quand on regarde la carte de l'Europe, on se dit qu'il y en a beaucoup qui ont passé le cap, pas nous.
Si j'ai bien compris, c'est plus pour d'autres thérapeutiques, pour d'autres maladies qui sont des maladies chroniques, voilà, plutôt que pour le cancer. Mais pourquoi pas?
Loïc nous appelle. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Merci pour l'émission aussi. J'avais une question. On constate depuis une vingtaine d'années, voire plus même, une augmentation importante des coûts et des prix pour se soigner pour le cancer, des soins. Voilà. J'aurais voulu savoir s'il y avait une raison de ces augmentations de tarifs.
Alors les coûts, merci Loïc pour votre question, Jean-François Maurer.
Oui, alors effectivement, mais il faut savoir que aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a peu, le traitement du cancer ne coûtait pas plus cher que par exemple une insuffisance du rein, la nécessité de faire une dialyse rénale, le traitement des maladies cardiovasculaires, donc qui touchent le cœur ou les vaisseaux. Aujourd'hui, grâce au progrès, on a véritablement un grand nombre de nouvelles molécules et qui peuvent être combinés ou qui doivent être combinés. Et c'est là que vient l'augmentation du prix, en fait, parce que c'est le prix du progrès, le prix de la combinaison de médicaments qui peuvent être coûteux ou de tests qui peuvent être coûteux, même s'ils peuvent avoir un intérêt pour désescalader, en quelque sorte, le poids, désescalader le traitement, par exemple, par chimiothérapie, comme dans le cancer du sein. Donc, c'est vrai que ça va poser des problèmes, des questions de choix. Est-ce qu'on veut, je dirais... donner une plus grande efficacité de ces traitements, c'est-à-dire le donner à ceux qui en bénéficieront et éviter les effets secondaires à d'autres, c'est une question qui est posée. Je rappelle toutefois qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas couler la sécurité sociale, puisque, comme vous le savez, le prix des médicaments, enfin, ça ne dépend pas du tout des médecins, ça dépend des autorités de santé, mais que l'enveloppe, en fait, est faite, le prix est calculé sur ce qu'il y aura comme consommation de cette molécule probable, et que quand ça dépasse ce qui a été prévu, eh bien c'est l'industriel qui doit rembourser à l'État les dépenses supplémentaires. Donc ça ne devrait pas abîmer la sécurité sociale.
Bonsoir Clarisse.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Clarisse.
Alors moi je voulais témoigner, j'ai un cancer du sang chronique avec lequel je vis depuis un certain temps. Il s'est un petit peu emballé, genre inondation. Donc on m'a proposé de l'immunothérapie. J'en entendais parler comme quelque chose de... Enfin voilà, on me l'a présenté comme quelque chose de vraiment très positif, et que même chez certaines personnes, quand elles l'arrêtaient au bout de quelques années, la maladie ne réapparaissait pas. Bon, on m'a juste dit comme effet secondaire un syndrome grippal pendant quelques jours, des courbatures, avec du Doliprane, ça va passer. Sauf que malheureusement, je fais partie des 10% de gens qui ont eu des effets secondaires très désagréables, jusqu'au point où j'ai dû arrêter le traitement, parce que vraiment, dans un état déplorable physiquement. Donc, j'ai pas perdu mes cheveux. Mais je me suis trouvée par rapport, on en parlait tellement dans les médias comme quelque chose de formidable par rapport à la chimiothérapie, d'un progrès, d'un truc révolutionnaire. Eh bien moi, je me suis trouvée très bête et nulle de pas encaisser ce produit-là, de faire partie des 10% de « ah ben oui, non, ben chez vous, voilà ». Alors je ne dirai pas le nom de la molécule, mais... On le présente, je trouve qu'on présente l'immunothérapie un petit peu trop comme quelque chose de super par rapport à la chimio. Parce que moi, je suis malade depuis 10 ans, donc j'ai côtoyé des tas d'autres malades de plein de cancers différents. J'ai vu des copines sous chimio pour des cancers du sein, sous rayon, etc. Elles étaient dans un état, bon, elles avaient la nausée, elles avaient plus leurs cheveux, mais elles étaient nettement mieux que moi avec les quelques injections que j'ai eues d'immunothérapie qui m'ont vraiment mis plus qu'à genoux. Et qu'on a dû arrêter parce que voilà, je pouvais plus respirer, j'ai eu des effets secondaires trop. Donc, ouais, c'est super, c'est un grand progrès, il n'y a pas de problème. Mais ne le présentez pas complètement comme quelque chose sans effets secondaires, parce que nous qui avons... les quelques qui avons des effets secondaires et devons arrêter l'immunothérapie, ça nous met encore plus une impression d'échec. Voilà.
Merci.
Et donc, bah là, je continue à me battre. Et par rapport au cannabis, j'ai eu tellement de douleurs partout que j'ai acheté par internet via la Suisse, via un laboratoire tout à fait officiel en Suisse. J'ai acheté de l'huile de CBD qui ne contient absolument pas de THC. J'ai absolument pas ricané bêtement. De toute façon, j'avais pas trop la tête à ça. Mais par contre, ça m'a vraiment soulagé des douleurs. Et ouais, il y a un retard énorme. J'ai écouté l'émission l'autre soir, le monsieur de la sclérose en plaques qui disait, je comprends pas, on me propose de la morphine contre les douleurs et on m'interdit de l'huile de CBD. Donc, je confirme que l'huile de CBD nous soulage, nous malades de sclérose en plaques ou de cancer ou de choses comme ça. Alors, il faut vraiment, vraiment que les choses bougent, quoi, bougent. Voilà, je vous remercie à tous.
C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup pour ce témoignage, Clarisse. Jean-François Morère, je sais que vous voulez intervenir. Je voudrais quand même demander d'abord à Aurélien Marabel, le spécialiste de l'immunothérapie. Moi, il y a deux choses qui me touchent beaucoup dans le témoignage de Clarisse. D'abord, il y a le fait que 10% c'est pas beaucoup, mais quand c'est nous, on se trouve nul. Et c'est terrible de dire ça, parce que c'est tellement pas de sa faute.
Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. En effet, vous faites bien d'insister sur le fait que des patients peuvent avoir des effets indésirables, parfois sévères. Et c'est tout le problème en fait des statistiques, c'est-à-dire que quand on prend une population de 100 ou de 1000 patients, on se rend compte qu'en effet ce sont des traitements qui sont globalement mieux tolérés, avec une meilleure qualité de vie comparativement à la chimiothérapie, mais il y a des patients qui vont avoir des effets indésirables qui peuvent être sévères, et puis à l'échelle individuelle c'est pas 60%, c'est 100% ou 0%, mais c'est quand on a un effet indésirable on l'a, et du coup c'est dur de vivre avec, et ça peut parfois être vraiment sévère.
Il y a aussi l'immunothérapie, il faut dire que ça marche pas sur tout le monde, parce qu'on parle que de ça, mais ça marche sur une minorité de patients, et ça aussi il faut le dire, l'essentiel quand même des thérapies aujourd'hui ça reste la chimio.
Jean-François Maurer.
Ça, on l'a dit, ça reste la pierre angulaire. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot à Clarisse.
Allez-y, bien sûr.
Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit désespérée, parce que de temps en temps, ce que nous observons chez certains patients, c'est que même après 2 injections d'immunothérapie, eh bien, il y a un effet qui se manifeste et qui peut perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'un an plus tard, eh bien, la maladie continue à s'améliorer sans injection d'immunothérapie, ce qui posera d'ailleurs ultérieurement le problème de la durée de cette immunothérapie.
Vous dire parce que les deux premières ont eu de l'effet, même si ça a été terrible en termes d'effets secondaires.
Et ce qui est vu, et je pense que Aurélien Marabel ne me désavouera pas complètement, le fait d'avoir des effets secondaires est parfois un témoignage d'efficacité de l'immunothérapie. Donc on sait que le prix à payer parfois est très difficile, mais je voudrais pas qu'elle désespère complètement.
Mais au point là quand même qu'on arrête le traitement, j'imagine que ça arrive dans beaucoup de cas, dans quelques cas, enfin dans les 10%, les fameux 10% de cas, au point que c'est tellement compliqué pour Clarisse qu'on arrête le traitement, effectivement.
Mmh. Oui, ça arrive en effet qu'on soit amené à interrompre le traitement avec, comme disait le professeur Maurer, parfois des efficacités même après l'arrêt du traitement. Ça fait partie justement des révolutions de cette façon de traiter les patients, puisqu'en fait on vient rééquilibrer en fait le système immunitaire, et parfois juste une ou deux injections peuvent suffire en fait à remettre le système en marche. Et on a des exemples de patients qui peuvent avoir des réponses durables dans le temps, même s'ils ont arrêté leur traitement.
Elle fascine beaucoup forcément ces histoires d'immunothérapie, et probablement aussi parce que dès qu'on prononce, et vous avez raison de rappeler les choses, professeur Maurer, dès qu'on commence à dire que moins de chimio ou pas de chimio, forcément on comprend très bien ce que ça déclenche chez les gens. Je voudrais qu'on écoute Claire qui nous appelle. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir, voilà. Mon fils de 29 ans a subi une néphrectomie totale élargie non métastasée en mars 2018. On a passé un scanner de contrôle en début juin, tout était OK. On lui propose maintenant de réfléchir à un éventuel protocole d'essai clinique en association avec deux médicaments. La question est, doit-on le faire, doit-on pas le faire? C'est sur un rein qui était non métastasé, donc voilà. Je peux dire le nom des médicaments ou pas?
Je sais pas. Est-ce que ça vous aiderait à répondre, Jean-François Maurer ou Aurélien Marabel, si on donnait les deux noms des médicaments ou pas?
Oh non, mais on imagine éventuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avancer, il y a un développement qui se fait d'abord dans des cultures de cellules, puis ensuite chez des animaux. Et à un moment donné, lorsqu'on a un certain nombre d'informations scientifiques, nous sommes obligés, pour guérir les gens ou les améliorer, passer à ce qu'on appelle un essai clinique chez l'homme, avec son consentement. Bien entendu, il n'est pas question de faire les savants fous et de donner n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans le cancer du rein, en particulier avec l'immunothérapie, mais aussi avec des thérapies ciblées, qui sont des thérapeutiques qui s'attaquent aux vaisseaux sanguins fabriqués, qui sont particulièrement fabriqués par les cancers du rein. Mmh. Et il est possible qu'au compte tenu de l'importance de la lésion locale, même si elle n'était pas métastasée, on veuille savoir si ces molécules pourraient diminuer le risque de rechute chez la personne de votre famille.
Y a-t-il un stade d'avancement de la maladie à partir duquel il n'est plus possible d'envisager l'immunothérapie? Non,
en réalité, les développements sont faits historiquement d'abord chez les patients avec des stades 4, donc des stades métastatiques avancés, puisque c'est comme ça qu'on fait la recherche clinique en cancérologie, c'est-à-dire qu'on essaie les nouveaux médicaments chez les patients qui ont le plus besoin, qui sont le plus avancés. Et la tendance aujourd'hui, en effet, c'est de venir sur des stades localisés, donc qui ont été traités par une chirurgie, et on vient tester la valeur ajoutée d'une immunothérapie après la chirurgie pour éviter les rechutes. Et ça, maintenant, ça fait partie aussi des choses qu'on teste avant la chirurgie. Mmh. Donc vous voyez que cette immunothérapie, c'est de se positionner en fait même sur les maladies localement avancées et non métastatiques. Mais c'est une tendance qui est récente par rapport...
On le fait de plus en plus tôt.
On le fait de plus en plus tôt pour essayer d'éviter les rechutes métastatiques.
Bonsoir Amanda.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Amanda, on vous écoute.
Merci à vous. Je vous appelais pour poser la question suivante. Est-ce que les soins de support sont proposés de manière automatique dans tous les hôpitaux ou y a-t-il en fait une sorte de sélection parce qu'il me semble que tout le monde n'a pas accès à ces soins de support qui aident justement à vivre les traitements de manière plus douce.
Merci beaucoup Amanda. Soins de support, ça veut dire sophrologie, ça veut dire acupuncture, ça veut dire toutes ces choses qui peuvent soulager en fait pendant le traitement. Est-ce que Jean-François Maurer, est-ce qu'ils sont proposés tout de suite?
Oui, alors ils sont proposés à peu près dans tous les centres de traitement du cancer, que ces centres soient des centres hospitaliers, des centres anticancéreux ou des centres privés. Alors parfois, tous ces centres n'ont pas tout toutes les techniques de traitement de support. Mm-hmm. Mais il faut savoir qu'effectivement, soins de support, ça veut dire tous les soins qui accompagnent la personne dans une vision globale pour son mieux-être au cours du traitement du cancer ou après. Et donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès. Avant, on ne s'intéressait pas, je dirais, il y a 25 ans. Mm-hmm. On a fait heureusement beaucoup de progrès depuis. C'est la prise en charge de la douleur, c'est la prise en charge du sommeil, c'est la prise en charge d'un certain nombre de choses. Et on a parfois besoin aussi de spécialistes, d'experts de ces questions qui ne sont pas forcément les cancérologues. Je vais prendre l'exemple de la fertilité après la chimiothérapie ou même de la sexualité qui peut vraiment être difficile parfois au cours ou après le traitement du cancer.
Bonsoir Simone.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai une question concernant le jeûne thérapeutique où plusieurs études ont montré son efficacité combinée à des chimiothérapies, mais également sans aucun autre traitement. J'aurais voulu savoir quelle était la place qui allait advenir du jeûne.
Le jeûne thérapeutique, le jeûne ou le jeûne? Vous parlez du jeûne? Vous me parlez du jeûne, c'est ça?
Oui, le jeûne.
D'accord,
oui.
Le jeûne thérapeutique.
Alors le jeûne, si vous voulez, un jeûne court, c'est-à-dire de quelques heures avant une chimiothérapie, on sait que chez certaines personnes, ça peut améliorer la tolérance de la chimiothérapie. La question
quelques
reste...
heures avant seulement, en
oui,
fait. Hein. Un
oui,
jeûne quelques
oui,
heures avant la séance
oui,
de chimio.
Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Est-ce que ça améliore l'efficacité de la chimiothérapie? C'est pas certain aujourd'hui. En tous les cas, ce qu'il faut éviter, ce sont des jeûnes prolongé. Une espèce de mode en ce moment qui est d'essayer de supprimer complètement le sucre à tout le monde, en particulier en même temps que les traitements du cancer. Ça devient difficile parce que, bien sûr, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, mais les cellules du cerveau aussi, le cœur, les muscles. Donc, il faut faire très attention. Si on doit faire un jeûne, c'est un jeûne court de quelques heures avant le traitement du cancer.
Ben oui, je vous pose la question parce qu'on a cette question sur franceinter.fr qui parle de jeûne durant les jours précédents pour soulager le foie.
Ça peut être 24 heures, mais je recommande pas plus parce qu'après, ça va être un peu difficile de supporter ça sur le long terme.
Pascal, c'est vous la dernière. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Bien, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je voudrais poser la question du prix. Parce que quand on dit aujourd'hui ou quand on lit dans la presse que ces nouveaux traitements immunothérapiques, et je pense aux UMAB, entre guillemets, qui sont en cours d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, ou qui sont déjà commercialisés, ce sont effectivement des médicaments très prometteurs. Il y a beaucoup d'études en phase 2, phase 3, qui essaient de les positionner en première intention, en association avec les chimiothérapies. Moi, ma question, elle est basique. Une chimiothérapie classique, qui a 20 ans, 30 ans, je pense, celle de platine, taxane, 5-FU, etc., ce n'est pas très très cher aujourd'hui. Ces nouveaux médicaments coûtent, quand on pèse entre 50 et 60 kilos, à peu près 6 000, 7 000 euros par mois.
On a compris le sens de votre question, Pascal. Pardon de vous presser parce qu'on a déjà dépassé le temps. Aurélien Marabel pour répondre à Pascal.
Oui, très simplement, en fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre le prix du médicament et le prix de la prise en charge du patient. La question, c'est de comparer aujourd'hui le prix des nouveaux traitements qui ont beaucoup moins de lourdeur thérapeutique par rapport à la chimiothérapie qui contenait des voies veineuses centrales, des hospitalisations, post-aplasie fébrile, etc. Cette comparaison, en fait, de coût de prise en charge du malade dans sa globalité, c'est ça la réelle comparaison qu'il faut faire et qu'on n'a pas aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vos nombreuses questions. Je vous laisse sur cette remarque de Charlotte sur franceinter.fr. N'oubliez pas de remercier et de saluer toutes les personnes qui se battent pour leurs proches, au-delà même des possibilités de la médecine. Et c'est vrai que j'ai coutume de dire portez-vous bien à la fin du téléphone sonne aujourd'hui plus que jamais.